Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à vous asseoir. Nous allons commencer cette séquence par la présentation du dispositif lycéen en Avignon. Et donc, sur scène, nous attendons madame la ministre de la Culture et de la Communication, madame la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, voilà. Monsieur Jean-Luc Cazaillon, directeur général des CMEA, Virginie de Crozet, du Festival d'Avignon, un collégien, monsieur Denier, il est là, et puis une collégienne, madame Denier, et monsieur Mendès. Voilà, je vous invite à vous asseoir et je vais tout de suite passer la parole à monsieur Cazaillon.
Ah, ça y est, j'ai tout démonté. Bien, madame la ministre de l'Éducation nationale, madame la ministre de la Culture, mesdames, messieurs. Donc, présenter les lycéens en Avignon, c'est présenter une expérience qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui fait partie d'un projet politique qui cultive l'art de la présence. Je vais faire référence à des propos qu'on a entendus depuis deux jours ici. Concrètement, c'est un accueil de 800 lycéens et apprentis. On oublie souvent les apprentis, mais c'est une action qui concerne un public varié. Et puis, bien sûr, une centaine d'enseignants qui accompagnent ces jeunes dans le cadre à la fois d'un projet qui s'élabore durant l'année scolaire et qui se vit ici en Avignon. Le projet que nous portons, c'est un projet du vivre ensemble, mais c'est surtout un projet du faire ensemble. Nous l'avons dit depuis deux jours ici, à l'occasion de tables rondes et de propos divers, la question du vivre ensemble est une question essentielle, mais s'agissant de l'art et de la culture, de l'éducation artistique et culturelle, rien ne remplace le faire ensemble, l'agir. L'agir est un propos cher au CMEA, une conception forte de l'activité. Nous travaillons ici dans l'accompagnement culturel, en lien bien sûr avec un projet qui est un projet singulier, puisqu'il associe une association d'éducation populaire, les CMEA, une collectivité locale, la ville d'Avignon, et puis bien sûr le Festival d'Avignon. Le tout dans un ensemble soutenu, mesdames, par vos deux ministères, dans une action éminemment importante pour nous. Nous essayons de faire en sorte ici, durant chaque année, de notre capacité à démontrer qu'il est possible de faire se rencontrer deux projets, le projet de l'institution scolaire et puis le projet autonome et singulier d'un mouvement d'éducation populaire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est depuis maintenant plusieurs années, nous arrivons à faire la démonstration que ça peut fonctionner. Nous tentons de faire aussi en sorte ici que les jeunes et les enseignants qui vivent des choses ensemble s'associent pour développer une certaine expérience de la liberté en faisant la démonstration et l'expérience esthétique qui constitue la base d'une éducation refondée. Tel est le sens politique du projet que nous portons ici, qui ne pourrait se dérouler sans l'appui, le soutien de vos ministères, de la collectivité et bien sûr du Festival d'Avignon, puisque ce projet s'inscrit dans la philosophie portée par Jean Villard à l'époque où il a fait appel au CMEA et en appuyant sur le Festival d'Avignon pour travailler sur un projet d'éducation populaire, d'ouverture et d'accueil d'un grand festival comme celui du Festival d'Avignon à un public le plus large possible. Alors, cette opération lycéens et apprentis en Avignon vit maintenant depuis plusieurs années. Nous espérons bien sûr et nous travaillons pour qu'elle puisse se pérenniser. Elle n'existe aussi que par l'appui des collectivités locales, notamment des conseils régionaux, qui agissent pour soutenir et financièrement et financent l'action et la présence des jeunes. De ce point de vue, aujourd'hui, en 2016, nous devons constater une baisse de la fréquentation des jeunes lycéens ici, puisque certains conseils régionaux ont commencé à effectuer des choix politiques qui s'inscrivent dans une rupture avec une forme de présence, de continuité et d'enjeu que nous portons depuis longtemps. Alors nous fondons l'espoir, bien sûr, que ces choix politiques ne se répandent pas ailleurs, et nous fondons bien sûr l'espoir qu'à travers la convention renouvelée avec vos ministères, nous puissions continuer à porter pendant encore de longues années cette opération singulière pour les jeunes et pour les enseignants. Je vous remercie.
Parole à Virginie de Crozet, directrice de la communication du Festival d'Avignon.
Merci Emmanuel. Bonjour à tous, mesdames les ministres, bonjour. Je ne monterai pas à la tribune parce que je pense que les jeunes souhaitent plutôt m'avoir à leur côté pour un peu les épauler. Nous allons vous parler du projet Jeunes Critiques en Avignon, la web TV du Festival. Donc depuis 3 ans, nous avons une salle qui s'appelle la Fabrica, qui est au croisement des quartiers Montclar et Champfleury. cette salle a été construite pour permettre aux artistes de créer, mais c'est vrai qu'Olivier Py, en prenant la direction, a souhaité aussi que cette salle soit un lieu de fabrication pour les habitants et pour les jeunes. Un lieu de fabrication d'éducation artistique et culturelle, donc vraiment en lien avec le territoire. Et pour reprendre des mots d'Olivier Py, nous n'avions pas envie de louper la nouvelle révolution copernicienne, c'est-à-dire la révolution numérique. Donc on a monté un projet qui s'appelait la Fabrica numérique, et puis après qui a reçu le label French Tech Culture. Et dans ce cadre-là, nous proposons maintenant depuis 3 ans une web TV, donc pour les enfants de l'extramuros, mais aussi de l'intramuros, parce que nous avons vraiment à cœur cette mixité, collégiens, lycéens. Et maintenant, depuis 3 ans, nous arrivons à monter 5 semaines de web TV, 3 semaines pendant le festival. L'idée étant de faire découvrir la ville, mais aussi les artistes à cette jeunesse, et surtout leur donner tous les outils critiques pour pouvoir lire les spectacles, les filmer, faire des choix éditoriaux, articuler une pensée et puis surtout transmettre, puisque tous ces sujets sont visibles sur notre site du Festival d'Avignon, mais aussi au CMEA et Canopée, qui sont deux partenaires cruciaux, puisque l'idée était de lier éducation nationale et éducation populaire, qui sont des acteurs qui, des fois, ne se rencontrent pas. Mais je pense que le festival fait... parce que le festival est aussi un lieu magique, fait que des choses, quelquefois impossibles, sont réalisables. Ce matin, nous avons fait un comité de rédaction, comme tous les matins. Et donc, je vais passer la parole à Najla et à Julien, qui vont vous dire un petit peu quelle est leur journée type. Et puis, surtout, ils avaient envie de réaliser un sujet sur vous deux, mesdames, sur... comment étiez-vous collégienne et aviez-vous eu accès à l'éducation artistique et culturelle? Donc je leur laisse la parole et puis ça donnera lieu à un petit sujet qui sera sur notre web TV.
Bonjour. Alors, une journée type. On arrive souvent vers les 9h ou 10h. On commence, on nous présente la journée, on a tous nos animateurs qui sont présents, le groupe. On va voir des spectacles. Après, par rapport à ces spectacles, après, on va voir les acteurs, les comédiens, les metteurs en scène. On va les interviewer. À partir de ça, on revient ici, on fait des montages. On apprend beaucoup de choses, justement, grâce à tous nos animateurs, ceux qui nous encadrent. C'est nous qui filmons la plupart des pièces qui se retrouvent sur la web TV.
J'aurais une question à poser aux deux ministres qui sont ici aujourd'hui. Déjà, merci d'être venus. Et je voulais vous demander si, dans votre vie, est-ce qu'il y a eu une œuvre spéciale qui a changé votre vie ? Oui, une œuvre spéciale.
Une œuvre théâtrale ou une œuvre quelque chose ?
Une œuvre.
Je commence alors. Donc, qui a changé ma vie, peut-être pas, mais ce qui vraiment change, je pense, peut changer la vie, c'est d'avoir accès à ses œuvres et de faire ses choix. Et ça, ça ne vient pas tout de suite. Vous parliez de l'éducation artistique. Pour moi, ce qui a fait la différence, ce n'était pas à l'école à l'époque, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous, et c'était la bibliothèque, l'accès à la bibliothèque. Et cette possibilité de faire mes propres choix à la bibliothèque, justement, peut-être différemment de ce que peut être le programme scolaire, les œuvres qu'on sait qu'on doit étudier. Et ce qui a fait la différence, c'est quand ce choix-là est devenu le mien.
D'abord, elle a raison. C'est bien ça, non ?
C'est bien.
Non, elle a raison d'insister sur le rôle d'une bibliothèque, par exemple, mais on pourrait en dire autant d'un musée. Je vous le dis parce que vous appartenez à une génération pour laquelle c'est peut-être plus naturel d'aller chercher des informations sur Internet. Or, la différence entre Internet et une bibliothèque, c'est qu'une bibliothèque, on peut errer dedans, on peut se perdre dedans, ne pas savoir précisément ce qu'on cherche et tomber en fait sur le livre qui va changer votre vie, alors que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et donc, je vous invite, mais 1000 fois, évidemment, à fréquenter les bibliothèques ou les musées. Après, moi, quelle œuvre aurait pu changer ma vie ? Alors, du coup, Moi aussi, c'est plutôt par la lecture. C'est plutôt par la lecture que je me suis ouvert beaucoup d'horizons. C'est que plus tard que je suis venue au théâtre ou au spectacle vivant, plus généralement. Mais quand on est plus jeune et qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir accès, comme vous l'avez, parce que vous, vous êtes ici, à plein de spectacles vivants, moi, il y a quelques livres, je ne sais pas, moi, à votre âge à peu près, je pense que l'un des livres qui m'avait beaucoup marqué, c'était un livre qui s'appelait « Mon bel oranger ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, un peu plus tard, « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Bon. Et puis, s'agissant du théâtre, quand même, vous dire que ce qui a marqué, moi, ma scolarité, c'est à un moment donné, je me souviens, c'était à la fin du collège, d'avoir eu la chance de participer à un projet théâtre. Et ça, je peux vous dire que ça vous marque vraiment, ça reste gravé dans la mémoire, et puis que surtout, ça vous aide à vous sentir plus confiant. Donc, voilà, je ne peux que vous inciter, c'est pour ça qu'on développe tout ce qu'on développe, évidemment, à pratiquer l'art aussi par vous-même.
Alors, dans votre enfance, avez-vous eu accès à la culture au sein de votre famille ou à l'école ?
À l'école, c'était très peu développé quand j'étais jeune, donc dans les années 70. C'était très peu développé. Je pense que la seule chose, c'était peut-être une sortie au théâtre, mais qui n'était pas une sortie justement accompagnée, travaillée, et qui, à l'époque, pour les gamins d'une dizaine d'années, n'était pas forcément vécue comme quelque chose d'heureux. Et je pense qu'on a énormément progressé sur cet aspect-là, avec tout ce qui s'est développé sur l'éducation artistique et culturelle, et la façon de faire connaître le théâtre aux enfants. Mais c'était très peu développé à l'école, et chez moi, ce qui était très présent, c'était beaucoup plus la musique.
Alors, même chose, même expérience, mais on a à peu près le même âge, donc ce n'est pas surprenant. 77, oui. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant dans le fait qu'on ait à peu près la même expérience, c'est que ça démontre bien que l'école change quand même, hein, que l'école évolue positivement. Parce qu'en vérité, moi, quand j'étais plus jeune, ce n'était pas du tout naturel, à part cette expérience exceptionnelle de projet théâtre, et c'est pour ça que je vous en parle, d'avoir ces sorties culturelles. Il n'y avait pas grand-chose dans le quartier où j'habitais. Donc, honnêtement, non, on n'en faisait pas beaucoup. Et je trouve qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de professeurs qui se mobilisent, qui s'engagent, et des tas d'écoles, de collèges ou de lycées qui ont des partenariats avec les institutions culturelles, vous avez beaucoup plus cette chance-là. Enfin, j'espère, hein, j'espère que vous nous le confirmez.
Moi, j'aimerais juste poser une toute petite question à quelqu'un qui est dans le public, qui a fait la Web TV l'année dernière, Myriam, qui est là. Est-ce que la Web TV a changé des choses dans ta vie ?
Bonjour. Je m'assois. Mais d'abord, je voulais dire que ça a vraiment été une expérience des plus enrichissantes, parce que d'abord, il y a eu un contact humain, d'abord avec les autres, les jeunes de mon âge que j'ai pu rencontrer, mais aussi avec les animateurs, et avec les autres à l'extérieur, grâce au micro-trottoir et tout ce qu'on a pu faire, comme a dit Julien, en rencontrant les metteurs en scène, en rencontrant les acteurs. Puis aussi cet accès direct à l'art et à la culture, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup aimé déjà, parce que d'abord ça m'a montré que même si... Enfin, ça m'a montré qu'on devait, c'est presque un devoir, d'avoir accès à la culture, avoir accès à la culture. Et est-ce que ça a changé ma vie ? Ben, depuis la fin du collège, je me suis un peu tournée vers le journalisme, parce que j'estime que c'est peut-être le milieu qui correspond plus à ma personnalité. Et en faisant ces 2 semaines du coup de Web TV, ça m'a donné déjà forcément plus confiance en moi. Ça m'a permis d'avoir plus de facilité d'aller vers l'autre et de parler en public. Et ce que je pourrais dire pour peut-être des personnes qui hésiteraient, c'est vraiment de foncer, parce que c'est une expérience qui peut n'être qu'enrichissante et qui peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, je la conseille à tous les jeunes de mon âge, et même plus jeunes et même plus âgés.
J'ai une dernière question à poser. Si vous aviez une œuvre de votre choix à partager avec les jeunes d'aujourd'hui, ce serait laquelle ?
Merci.
Non, non, je ne fais pas le programme officiel encore. Non, j'hésite. J'hésite parce que je crois que je ne peux pas vraiment répondre à ça en disant une œuvre, parce que je sais celle qui compte pour moi. Mais je pense que c'est tout le but de l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi d'affirmer son propre choix. D'affirmer et de trouver d'abord, d'avoir un panorama large et de ne pas rester sur uniquement les programmes, d'ailleurs, de choisir. Et après, de trouver... Chaque œuvre, en fait, elle est faite à la fois par l'auteur de l'œuvre et par celui qui la lit, qui la regarde. Celui qui regarde le tableau, il fait aussi le tableau. Donc je pense que je ne rendrai pas service en répondant à votre question par une seule œuvre. Voilà.
Oui, et puisque madame, vous disiez, attention, ça va se retrouver dans les programmes. En fait, moi aussi, je ferai une réponse du même style pour vous dire que finalement, dans vos programmes scolaires, précisément, on vous emmène vers un certain nombre d'œuvres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou autres, artistiques. Ne considérez jamais que ça ferme votre monde, que ça ferme votre horizon. Justement, appuyez-vous sur ce que vous apprenez dans vos programmes scolaires pour aller voir d'autres œuvres. Parce que finalement, c'est jamais exhaustif ce qu'on vous apprend. Donc c'est très important. Moi, je discute parfois avec des collégiens ou des lycéens qui me disent « c'est dommage qu'en programme d'histoire, on n'étudie pas davantage telle période de l'histoire ». Je leur dis « mais vous savez, si vous estimez qu'on ne l'étudie pas assez, rien ne vous interdit d'aller lire à ce sujet par vous-même ». Enfin, moi, je me suis fait une grande partie de ma culture en allant lire par moi-même, ce que je ne trouvais pas forcément dans les programmes scolaires. Donc, même chose. Pas une œuvre, chacun la vôtre, et n'hésitez pas à aller la chercher.
Merci.
Merci beaucoup. Après cette présentation à la fois du travail des CMEA, de ce dispositif de votre Web TV, on voit que les questions les plus importantes sont toujours posées par les jeunes qui nous rappellent à l'ordre aussi des questions essentielles auxquelles on doit pouvoir répondre. Et merci, mesdames les ministres, d'avoir si bien répondu. On va entamer la séquence discours, puisqu'on m'a demandé de vous présenter la charte qui nous anime aujourd'hui, la charte de l'éducation artistique et culturelle qui a été élaborée au sein du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle que vous m'avez fait l'honneur d'occuper la vice-présidence en votre nom. Et je vous ai préparé un petit discours qui représente, j'espère, ne pas trahir les membres du Haut Conseil qui sont là dans cette salle, l'esprit avec lequel on a tenté de travailler pour pouvoir vous présenter cette charte. On a voulu vraiment avoir cet esprit d'une charte simple, lisible par tous. Et je vais vous lire les quelques mots que je vous ai préparés. Je n'ai que 48 pages, ça ne devrait pas durer très longtemps. Vous avez un improvisateur, tout est parfait. Madame la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la ministre de la Culture et de la Communication, je vous avoue que je suis particulièrement ému de vous parler ici aujourd'hui et que vous soyez réunis ici toutes les deux, parce que vous avez très sincèrement remis au cœur du projet de notre nation, sous l'impulsion du président de la République, cette idée de l'éducation culturelle et artistique au sein de nos programmes, au sein de vos actions, dans un lieu, vous la présentez ici, dans un lieu aussi symbolique qu'Avignon, pour la 70e édition. C'est une commémoration tout à fait essentielle. C'est important, parce qu'ici se sont élaborées beaucoup de choses. J'ai la chance aussi, dans ce lieu, d'avoir conduit depuis 1996, en tant que sociologue de la culture, des enquêtes sur les publics du Festival d'Avignon, avec mes collègues Jean-Louis Fabiani, qui sont dans la salle, et Damien Malinas. Et travailler sur les publics de la culture nous a enseigné quelque chose de tout à fait essentiel. Vous avez un festival tout à fait exceptionnel, 70 ans de festival. Ça veut dire que les premiers spectateurs du Festival d'Avignon, il y en a qui sont encore présents ici, il y en a beaucoup qui nous ont quittés. Jean Villard nous a quittés également. Il a voulu créer ce lieu formidable du Festival d'Avignon, qui est un lieu patrimonial, un lieu de théâtre, un lieu où on réfléchit le monde politique en cours. Et on se rend compte que, comme tous les gens qui ont disparu, on essaie quelquefois, quand on a aimé des gens qui ont disparu, de faire revenir dans notre esprit la mémoire, leur image. Quand on a tous des êtres chers qui disparaissent, on se rend compte souvent que pour évoquer l'image, quelquefois cette image, même quand on les a aimés très fort, cette image se dissout, on a du mal à réévoquer ce souvenir. Et que dans ces cas-là, on a forcément besoin des autres. Besoin des autres pour réévoquer les anecdotes communes, pour réévoquer les aventures qu'on a vécues. On a tous connu cette expérience singulière. Les traits d'un visage qu'on a aimé, qui nous était si proche, cette expérience peut nous plonger dans une immense tristesse si donc il n'y avait pas les autres, ceux qui ont aussi connu la personne et avec qui on peut en reparler. Nous avons besoin d'être ensemble pour faire vivre nos souvenirs et surtout pour les transmettre. C'est le sens même et le sens premier d'une culture qui est toujours, comme le disait René Char, un héritage dont nous ne possédons pas le testament.
En ce qui concerne le Festival d'Avignon, il nous reste des écrits de Villard. Les écrits de Villard sont, j'avoue, assez pratiques parce que Villard dit tout et son contraire. Extraordinaire, néanmoins, on répète sans cesse cette belle déclaration de Suresnes parce qu'il avait un projet politique pour le public. C'est important d'énoncer un projet politique. Tenter de réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier, le haut magistrat, on connaît cette phrase par cœur, l'ouvrier et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé, car dans ce monde mécanisé, hiérarchisé, divisé, unir des êtres d'origines diverses, de goûts différents, de pensées souvent ennemies, est, me semble-t-il, la raison d'être du théâtre. Car enfin, il s'agit pour Villard d'être bien et bien ensemble pour penser politiquement ce monde. Le projet de Villard, celui d'une éducation populaire, qu'il va devoir sans cesse réinventer, comme une utopie politique. Le discours de Villard part encore. S'il est cité si souvent, c'est qu'il parle encore à la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse habitée, encore aujourd'hui, et on a rencontré des jeunes hier qui nous ont adressé la parole ici, par un vrai militantisme, encore, une volonté de s'émanciper grâce à la culture. Trop d'entre nous préfèrent changer d'objectif lorsque l'objectif initial qu'ils se sont fixé semble trop difficile à atteindre. Pas Villard, pas plus que ses héritiers. Le fait que Villard continue à parler à la jeunesse d'aujourd'hui, particulièrement aux étudiants de nos universités qui ont été les grands oubliés de toutes les politiques culturelles, c'est que tout comme André Malraux, Villard pense qu'il existe une mystique de la rencontre entre le peuple et la culture. Cette rencontre-là, cette mystique, est chargée de la plus belle des énergies. Une énergie qui nous rappelle que la culture doit être partagée par tous et ne saurait être confisquée au profit de quelques apparatchiks ou soumise, c'est tout aussi grave, à la domination du marché. Au nom du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle et de l'ensemble de ses membres, que je remercie encore, j'ai donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui, mesdames les ministres, la charte de l'éducation qui est juste devant moi ici. 10 phrases, 10 principes, simples, lisibles, par tous, destinés à parler à l'ensemble des acteurs de l'ambition que nous souhaitons voir portée par toute l'éducation culturelle et artistique. Des phrases élaborées dans la diversité que portent celles et ceux qui siègent dans notre conseil, représentants des ministères, membres des fédérations d'élus, représentants des collectivités territoriales, parents d'élèves, artistes, éditeurs, personnels des administrations centrales et des services déconcentrés de l'État. Je ne vous cache pas que cet esprit qui règne dans le Conseil, c'est travailler sans considération partisane à la construction d'un espace de dialogue, de débat, d'échange, parfois très vif aussi, il faut le dire, car nous avons tous quelque chose à défendre lorsqu'il s'agit de l'éducation artistique et culturelle, un enjeu largement partagé s'appuyant sur une culture professionnelle partagée, elle aussi, c'est notre ambition à travers cette charte. La diversité, si elle devient une force au sein de ce Haut Conseil, peut poser, nous en sommes conscients, sur le terrain un certain nombre de problèmes, faute de références partagées. C'est aussi pour cela que, voilà, on essaie de créer un langage qui nous permette, à travers des mots très simples, surtout pas technocratiques, de parler la même langue pour qu'on puisse se mobiliser collectivement derrière cette charte. La charte de l'éducation artistique et culturelle que nous avons élaborée poursuit ses objectifs précis. Façonner des références communes, en posant des principes clairs, elle vise à favoriser l'engagement des acteurs. Elle est faite en 10 points. Je pourrais vous dire qu'elle retrouve tout ce qui a façonné l'éducation culturelle et artistique, de l'éducation à l'art, l'éducation par l'art. On a souhaité, dans la phrase numéro 7, marquer l'égal accès de tous les jeunes à l'éducation artistique et culturelle, repose sur l'engagement mutuel entre les différents partenaires, communauté éducative, monde culturel, secteur associatif qui est civil, État et collectivité territoriale. Je ne vous cache pas que nous aimerions que cette charte soit bien plus qu'un testament, comme le disait Char, pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Ce ne sera pas facile et nous devons en avoir conscience. La réorganisation des différentes politiques culturelles, on l'a vu dans les tables rondes d'hier, qui ont été très denses et très riches, ont été revues depuis Malraux avec beaucoup de considérations singulières, comme le rappelle Jean-Louis Fabiani, contribuant quelquefois à délégitimer l'éducation populaire au sein même de nos politiques. Le contact avec l'œuvre directe, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage les choses? Ou simplement la sacralisation accrue de la sphère de la création? Je crois qu'il faut aller au-delà. Donner des formes pédagogiques à travers les parcours d'éducation, retrouver la manière dont chacun peut s'approprier l'art, c'est vraiment un objectif. Replacer l'éducation artistique et culturelle au cœur de nos politiques publiques, c'est surtout porter, comme vous le faites, mesdames les ministres, avec conviction, le projet d'une égalité républicaine de tous nos jeunes devant la culture, les arts, une égalité qui ne se paie pas de mots et dont nous devons tous être co-responsables. En ce sens, vous renouez avec le projet de l'éducation populaire des origines en l'installant dans une nouvelle dynamique d'espoir pour notre 21e siècle. L'inverse d'une culture pour chacun, une culture pour tous. En ce sens, nous devons être tous nos propres médiateurs d'une culture partagée. Nous espérons de tout cœur que cette charte pourra nous y aider. Olivier Pie, le directeur du Festival d'Avignon, rappelle que nous pourrions être, si nous le voulions, la nation la plus cultivée du monde. Il faut avoir cette ambition. Nous devons la porter avec fierté, cette magnifique ambition, la nation la plus cultivée du monde. La plus belle raison d'espérer est sans doute dans ces mots-là. Des mots qui nous laissent de nous rappeler que nous devons plus que jamais investir politiquement, sociologiquement et, j'ajoute un adverbe moral, audacieusement la culture, car nous ne devons jamais oublier que les œuvres de la culture ressemblent à ces dragons dont parle Maria Rilke, des dragons qui sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir heureux ou courageux. C'est au prix de ce courage, mesdames les ministres, et de cette joie, j'insiste sur le mot joie, que nos mémoires pourront enfin recommencer à rêver. Je vous remercie. Je vous passe la parole, Madame la ministre de la Culture et de la Communication.
Merci beaucoup. Je suis encore en train de penser au dragon qui ne demande qu'à être embrassé. J'ai réfléchi. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Najat, Monsieur le Préfet, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil à l'éducation artistique, chers amis de la culture qui êtes là, la France a de grands défis devant elle. Un de ces grands défis, c'est de faire partager cette culture si riche. Je ne sais pas si nous sommes le pays le plus cultivé au monde, je ne crois pas, mais au moins nous la plaçons très haut dans les valeurs de notre République et dans notre projet de République. Et un des grands défis qui est devant nous, c'est de faire partager ce projet à la jeunesse et à toutes les jeunesses. Et c'est un sujet, peut-être le sujet, qui illustre le plus la nécessité que nous avons à travailler ensemble pour atteindre et pour surmonter ce défi. Travailler ensemble, c'est l'État, les collectivités territoriales, les artistes, les enseignants, les structures culturelles, les établissements scolaires, les acteurs sociaux, ceux de l'éducation populaire, tous ceux qui peuvent concourir à ce projet. C'est le grand défi parce que c'est à cet âge que se joue l'égalité des chances, c'est à cet âge que se joue la possibilité pour chacun d'être un citoyen éclairé, un citoyen qui peut penser la complexité, un citoyen qui est confronté à l'altérité à travers la culture, et aussi qui le fait à travers des projets collectifs, ce qui me semble très important dans les projets d'éducation artistique et culturelle que nous soutenons. Car il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives d'éducation artistique et culturelle en France, elles sont même foisonnantes, il est difficile d'en dresser la cartographie précise, et il y a autant de petits miracles nécessaires qui se produisent chaque jour. Vous avez dit l'éducation artistique et culturelle, c'est une éducation à l'art, mais aussi par l'art, c'est ce que dit la charte qui nous est présentée aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier, cher Emmanuel Etis et chers membres du Haut Conseil, pour avoir réussi cet exploit de condenser en 10 points les principes fondamentaux de l'éducation artistique et culturelle. 10 règles qui composent un socle commun dans lequel peuvent se reconnaître les établissements d'enseignement, mais aussi les centres de loisirs, les instituts médico-sociaux, les services pédiatriques, la protection judiciaire de la jeunesse et toutes les structures culturelles, puisque comme nous sommes énormément d'acteurs à intervenir dans ce projet, plus grand est le besoin d'avoir ces principes auxquels nous référer. Les artistes sont bien sûr, aux avant-postes en la matière, et la loi qui vient d'être promulguée sur la création, l'architecture, le patrimoine leur reconnaît ce rôle fondamental. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de l'accord sur l'intermittence du spectacle, parce que c'est la création de tous les jours qui a été rendue possible par cet accord que les professionnels ont trouvé, et c'est aussi la prise en compte de l'éducation artistique dans l'activité des intermittents, des artistes et des techniciens du spectacle qui sera mieux reconnue à travers cet accord. Donc c'est une force nouvelle qui vient nourrir l'éducation artistique et culturelle. Vous avez eu raison de rappeler que l'éducation artistique et culturelle se déploie aussi au quotidien dans les réseaux d'éducation populaire. Nous en avons eu un exemple avec le CMEA qui, chaque année, émerge les lycéens dans l'effervescence artistique avignonnaise. Je pense aussi à la Fédération Léo Lagrange ou à la Fédération des œuvres laïques qui agissent autour du cinéma, de l'éducation à l'image, mais aussi à toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation à la musique ou dans le champ du patrimoine et des musées. Ces actions-là, au ministère de la Culture, nous les soutenons, nous y participons, et nous venons de louer un dialogue constructif avec la coordination des fédérations des associations de culture et de communication, qui fédère 22 fédérations au niveau national. Vous avez rappelé brièvement l'histoire de l'éducation artistique et culturelle, qui est mouvementée, qui a progressé par à-coups depuis les années 60, qui donc dans les années 70 n'était pas encore très développée, qui a connu avec dans les années 80 et 90 un véritable développement avec le plan Langtasca. Et les collectivités territoriales se sont de plus en plus impliquées dans ces projets. Je voudrais remercier les associations d'élus, l'AMF, l'ADF, l'ARF, la FNCC, pour leur participation aux travaux du Haut Conseil et leur contribution de façon générale à l'éducation artistique et culturelle. Et ce soutien est si important qu'on voit, vous l'avez dit, que lorsqu'il y a des retraits de collectivités locales, c'est tout le système qui est fragilisé parce que, ici ou là, par le transport, par un financement complémentaire, le retrait d'une collectivité peut fragiliser tout un ensemble. Donc c'est un projet que nous partageons et c'est un projet dans lequel nous devons être solidaires. Au sein de l'État, avec Najat Vallaud-Belkacem, nous avons mis en cohérence les politiques du ministère de la Culture et de la Communication et celles du ministère de l'Éducation nationale dans une feuille de route commune. Et dès 2013, nous avons donc réactivé, les deux ministères ont réactivé le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Depuis 4 ans, les crédits du ministère de la Culture ont augmenté fortement, de 80%, ce qui est une part importante pour le budget de la culture pour ce qui concerne les projets d'éducation artistique et culturelle. Et le nombre d'enfants touchés par au moins une action financée par les ministères est passé de 22 à 35%. Donc à la fois, c'est une progression spectaculaire, mais on voit bien tout le chemin qui nous reste à parcourir, puisque même les dispositifs les plus anciens, les plus ancrés, peinent à toucher l'ensemble d'une classe d'âge. Le président de la République a fixé l'objectif de 50% d'enfants touchés dès l'année prochaine. C'est dire que nos ambitions en la matière sont grandes. Cette culture partenariale que nous appelons tous de nos voeux et qui est une des conditions de réussite pour l'éducation artistique et culturelle commence à devenir une vraie réalité entre les deux ministères et il faut s'en réjouir. Nous avons décidé, Najat Vallaud-Belkacem y reviendra, d'étendre le pass éducation qui est réservé aujourd'hui aux seuls enseignants mais qui sera étendu à d'autres membres de l'équipe éducative, par exemple les conseillers d'éducation. Nous allons aussi signer une convention qui associe la DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les deux académies de Nice et Aix-Marseille. Une convention exigeante en termes d'objectifs, qui marque aussi un resserrement des liens entre nos administrations. Et nous devons aller encore plus loin en passant de cette mise en cohérence qui était nécessaire à une réelle intégration. Et dans ce cadre, il faut avoir une attention particulière et donner la priorité aux territoires les plus éloignés, aux territoires les plus en difficulté, soit à la périphérie des villes, soit dans nos campagnes, et cibler notre action en direction des jeunes qui ne peuvent pas, pour des raisons géographiques, économiques ou sociales, participer, être partie prenante de ces projets de sensibilisation. Le Festival d'Avignon, cela a été dit, s'y emploie avec la Fabrica, un outil de création situé au cœur des quartiers de Champfleury et de Montclar, qui est aussi pensé comme un outil de transmission et de sensibilisation des publics à la périphérie de la ville d'Avignon. La convention avec l'État et l'Académie d'Aix-Marseille va permettre d'affirmer cette dimension d'éducation artistique et culturelle vers les quartiers populaires, qui est notre grand défi. Je voudrais aussi citer la Comédie française, cher Eric Ruff, dont la stratégie d'action éducative cible tout autant élèves et étudiants de Paris intramuros que les jeunes vivant en banlieue parisienne. Et plus de la moitié des conventions nouées entre la Comédie française et les établissements d'enseignement secondaire concernent Paris extramuros. Je voudrais citer de nombreux dispositifs qui existent et qui ont fait leurs preuves. Orchestre à l'école, dans plus de 1400 établissements. Tous les dispositifs d'éducation au cinéma, école, collège, lycéens au cinéma. Des opérations sur la lecture, comme cet été Partir en livre, pour que les livres aillent vers les jeunes, soit sur leur lieu de vacances, soit surtout pour ceux qui ne partent pas en vacances. Je voudrais citer aussi les Portes du Temps, une opération du ministère de la Culture qui permet aux enfants et aux adolescents des quartiers défavorisés d'être sensibilisés au patrimoine durant les vacances scolaires avec les centres de loisirs. Et nous allons continuer à poser de nouveaux jalons en la matière. Le 1er juin dernier, j'ai annoncé un soutien accru aux équipes artistiques et aux lieux qui s'adressent spécifiquement aux jeunes publics dans le cadre de la génération Belle Saison. Nous avons aussi annoncé avec Hélène Geoffroy un élargissement du projet Demos, porté par la Philharmonie de Paris et qui essaime dans toute la France avec la création de 30 orchestres qui sont formés par des enfants, des élèves, des quartiers populaires qui n'avaient pas de lien avec la pratique musicale et encore moins avec la pratique orchestrale. Nous avons d'ailleurs, et c'est en lien avec la réponse que je vous ai faite tout à l'heure, créé un nouveau dispositif permettant d'accompagner les municipalités qui veulent ouvrir les bibliothèques plus, et notamment les ouvrir le dimanche, jour où les enfants, les familles pourront aller, non pas uniquement faire leurs courses, mais aussi dans les bibliothèques, découvrir toutes ces œuvres qui les marqueront. Et dans un instant, nous allons signer avec Najat Orobelkacem une convention qui permettra d'offrir le 7e jour auparavant fermé de nos grands musées que sont le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, au public scolaire, dans des conditions particulières, privilégiées pour les groupes scolaires. C'est une réelle avancée, qui est une avancée à la fois pour la jeunesse, pour les équipes éducatives, mais aussi pour les équipes de ces institutions culturelles, qui auront des rapports nouveaux avec les scolaires. Je crois qu'hier, un lycéen est intervenu ici même et a évoqué la nécessité d'impliquer les jeunes dans les projets, d'en faire des ambassadeurs de l'éducation artistique et culturelle. C'est fondamental. Nous y travaillons, par exemple pour le cinéma, avec les services civiques, pour réactiver les ciné-clubs dans les lycées, et aussi en s'appuyant sur les conseils des délégués pour la vie lycéenne. Concernant la présence des créateurs dans les écoles, au sein des écoles, nous allons nous inspirer de ce qui a déjà été fait à Rennes, en Seine-Saint-Denis ou en Arles, où nous étions encore hier avec le président de la République, et mettre en place, toujours avec le ministère de l'Éducation nationale, un dispositif qui ciblera les établissements scolaires les plus démunis en la matière pour y installer des résidences d'artistes de longue durée, au long cours. Aujourd'hui, peut-être plus encore, et je pense que toute la programmation du Festival d'Avignon en témoigne magnifiquement, nous avons besoin de cette création, nous avons besoin de ces espaces qui ne sont pas ouverts ailleurs, alors que nous remettons en doute parfois nos identités, ou plutôt le dialogue entre nos différentes identités. Et la place des artistes doit être au plus près des enfants, des adolescents, pour justement affirmer ces valeurs, affirmer notre modèle et avancer ensemble. L'enjeu de l'éducation artistique et culturelle est là, nous aider à cultiver nos nuances, aider chacun de nous, notamment les enfants, à se connaître, à connaître en soi celui qu'on ne connaissait pas, parfois à prendre confiance en soi aussi, souvent à surmonter nos idées préconçues et à vivre l'altérité dans la création. C'est un travail patient, mais c'est un travail nécessaire qui est un devoir pour la République, devoir que nous allons mener ensemble. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ce matin, j'ai eu, Madame la Ministre de l'Éducation, la chance de vous suivre un petit peu dans la rue, dans les rues d'Avignon, à quelques dizaines de mètres derrière vous, et plein de gens m'ont interpellé dans la rue en me demandant si j'étais votre garde du corps. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, c'était trop long à répondre ce que je faisais pour vous, donc j'ai dit oui. Votre garde du corps va vous donner maintenant la parole, Madame la Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem.
Je précise quand même, pour pas qu'il s'inquiète, à mon officier de sécurité qu'il n'est pas licencié. Hein. Je le conserve. Il n'écoute pas, je pense. Bien, Madame la Ministre, chère Audrey, mesdames et messieurs les élus, Monsieur le vice-président du Haut Conseil, cher Emmanuel Etis, qui m'avait fait sourire tout à l'heure parce que, comme tout militant sincèrement convaincu par la cause qu'il porte, vous ne pouvez pas imaginer croiser des ministres sur votre chemin et ne pas porter au moins une revendication. Et vous avez eu raison de le faire, mais je voudrais vous dire quand même en introduction que sur la revendication que vous avez portée lorsque vous avez parlé de ces étudiants qui seraient les orphelins de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, les choses changent. tout arrive à qui sait attendre et surtout à ceux qui agissent, puisque dans la loi égalité citoyenneté actuellement en discussion au Parlement, nous avons bien sûr veillé à introduire un amendement qui a toute son importance, puisqu'il va permettre enfin de reconnaître dans la loi les services culturels des universités et leurs missions, qui sont donc des missions de formation, de création, de diffusion. C'était important parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas le sujet en tête, Emmanuel Etis, qui a été président de cette université, l'a parfaitement en tête. Pendant longtemps, ces services culturels étaient les seuls services, les seules missions au sein des universités qui n'avaient aucune assise légale. Ce qui faisait que, ben, il y avait les universités volontaristes comme la vôtre, puis celles qui ne faisaient pas. Eh bien, aujourd'hui, les services culturels deviennent donc une obligation dans les universités et c'est une superbe avancée. Je referme la parenthèse. Je voudrais vous dire que, vous savez, moi j'ai le plaisir d'avoir aussi bien dans mon entourage personnel, familial, que dans l'équipe qui m'entoure au quotidien, et je pense notamment à un conseiller de mon cabinet, des comédiens, des metteurs en scène. Et donc pour en parler régulièrement avec eux, je sais que tout comédien ou tout metteur en scène, quand il lit un texte de théâtre, voit bien au-delà des lignes, bien au-delà de la page. Que dans son esprit, en lisant ce texte, il y a des intonations qui résonnent, il y a des actions qui se dessinent, il y a un plateau mental qui s'anime et des décors qui s'esquissent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense qu'il faut avoir exactement la même approche que ces comédiens et ces metteurs en scène à l'égard de cette charte. Il faut voir au-delà des mots pour bien comprendre ce qu'il y a derrière et ce qui s'annonce pour nous. Ce sont évidemment des phrases et des principes essentiels. Mais leur véritable horizon à ces phrases et ces principes que vous avez rappelés, Emmanuel, ça n'est pas simplement d'être lu, mais de nourrir des actions futures. Cette charte, mesdames et messieurs les membres du Haut Conseil, nous appelle en fait à l'action politique. Et une action, comme l'a souligné Audrey tout à l'heure, qui doit être collective ou qui n'est pas. Alors je veux vraiment saluer le travail que vous avez accompli. L'événement d'aujourd'hui, cette charte, les conventions de tout à l'heure, signe une étape nouvelle, importante pour notre politique d'éducation artistique et culturelle. Merci d'abord à ceux qui ont participé à l'élaboration de ces journées, les membres du Haut Conseil, et en leur sein, je tiens à préciser clairement, parce que c'est important, les fédérations de parents d'élèves, les artistes, les chercheurs, les représentants des administrations centrales, des ministères de la ville, de la jeunesse, des sports et de l'agriculture. Merci aussi au Festival d'Avignon, à l'université, bien entendu, Monsieur le Président, qui nous accueille dans un cadre magnifique. J'ai eu l'occasion de le dire mille fois. Et puis, merci donc à tous les membres du Haut Conseil pour la signature unanime de cette charte. C'est quand même suffisamment rare, en ce moment, d'avoir une unanimité sur un sujet pour le reconnaître. Alors, cette charte, ces principes vont donc nourrir les projets des établissements scolaires, des institutions culturelles, des enseignants, des artistes, des associations, des collectivités et contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle. Audrey le disait à l'instant, on a quand même assisté, et vraiment il faut que les jeunes gens présents sur la scène, c'est ce qu'on essayait de leur dire tout à l'heure, en prennent conscience, on a assisté ces dernières années à des progrès remarquables sur le sujet, notamment dans le pourcentage d'élèves qui bénéficient de l'éducation artistique et culturelle. Tu évoquais tout à l'heure le chiffre de 35%. Dans certaines académies, nous dépassons les 50%. C'est par exemple le cas de l'Académie de Nantes. Aujourd'hui, par notre action, en particulier depuis 2-3 ans, la quasi-totalité de nos académies ont signé des conventions pour le développement de l'éducation artistique et culturelle. Et bien sûr, je ne peux que saluer celle qui va être signée tout à l'heure par la DRAC, l'Académie de Nice, l'Académie d'Aix-Marseille, et qui est assez exemplaire et ambitieuse par sa cohérence et sa précision. Alors, je parlais de la charte, mais au-delà de la charte, il y a d'autres textes qui, pour aride qu'il puisse sembler, je le comprends bien, marque, je veux le dire, un tournant essentiel dans l'histoire de l'éducation artistique et culturelle. Au risque de nourrir les stéréotypes et les contrastes entre l'éducation nationale et la culture, j'imagine que Audrey Azoulay, dans les fonctions qui sont les siennes, est plus habituée à citer de grands artistes. Moi, je vais aller dans des écrits moins poétiques, mais pourtant essentiels, dans lesquels j'invite tous les observateurs à se plonger quand même. Par exemple, la loi de refondation de l'école. Eh bien oui, le 8 juillet 2013, cette loi de refondation de l'école a inscrit pour la première fois l'idée que l'éducation artistique et culturelle pour chaque élève devait faire partie du code de l'éducation, et faisait partie, devait faire partie du socle commun de connaissances, compétences et cultures que notre nation se doit de faire acquérir à chaque élève à la fin de sa scolarité obligatoire. Ça n'est pas rien. C'est la première fois que c'est ainsi reconnu. À cette reconnaissance, à cette légitimation, se sont ajoutés des textes de référence, là encore, pour la mise en œuvre de ce principe. Et notamment, le 9 juillet dernier, la publication du référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle. Là encore, ça n'est pas très poétique, mais ce référentiel a nourri bien des projets. Sa force à ce référentiel, c'est finalement de donner des repères clairs à l'ensemble des équipes pédagogiques au sein des établissements scolaires sur ce qu'est cette éducation artistique et culturelle que doivent acquérir les élèves. Trois piliers, la connaissance, bien sûr, la connaissance des œuvres, de l'histoire des œuvres, la rencontre avec les artistes, la découverte de lieux artistiques et culturels ensuite, et troisième pilier, la pratique qui donne enfin à l'élève l'occasion de comprendre et de saisir de l'intérieur les enjeux d'un art ou d'une pratique culturelle. Alors, je tiens à vous rassurer une fois dit cela, l'éducation nationale ne s'en tient pas au seul texte, mais les textes sont importants. Mais on ne s'en tient pas au seul texte, regardez d'abord l'investissement financier qui est le nôtre. Je tiens à le rappeler ici, en 2015, l'investissement de l'éducation nationale dans le domaine artistique et culturel s'élevait à presque 2 milliards d'euros. C'est un chiffre qui recouvre, entre autres, le financement des enseignements artistiques, les sommes allouées aux services éducatifs des structures culturelles, en passant par les délégués académiques aux arts et à la culture qu'on trouve dans toutes les académies, sans oublier les subventions aux associations culturelles d'éducation populaire. Donc d'abord, un financement clairement acté dans notre budget. Ensuite, sur le terrain, un soutien fort aux initiatives de plus en plus nombreuses qui se développent. Et pour leur donner le rayonnement qu'elles méritent à ces initiatives, on est même allé en 2015 jusqu'à instaurer une journée des arts à l'école, partout sur le territoire, une journée durant laquelle sont donnés à voir, à entendre, à ressentir les pratiques et les apprentissages des élèves. Et c'est une formidable chose, notamment pour les parents, qui prennent ainsi conscience de ce qui a été réalisé dans l'établissement scolaire et de ce en quoi ça a pu aider, y compris dans la scolarité des élèves. Parmi ces initiatives auxquelles on a voulu donner un développement et une promotion particulière, il y a notamment la pratique du chant choral. La pratique du chant choral, parce que je ne sais plus avec qui j'avais cette discussion tout à l'heure, mais il n'y a rien de mieux quand même que le chant choral pour faire l'expérience du collectif pour les élèves. En 2012, 85% des établissements scolaires de France avaient une chorale. À la rentrée 2016, ils seront 92%. Et dans des académies comme celle de Créteil, où nous avons fait un effort particulier, ou encore de Besançon, nous atteindrons les 100% d'établissements qui ont une chorale. Mais ce rayonnement, ce foisonnement d'initiatives, il faut aussi l'entretenir, le nourrir. Il faut donner à voir les meilleures expériences pour que d'autres territoires, d'autres établissements qui n'ont pas encore eu cette politique volontariste, à leur tour, s'engagent dans la démarche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec Audrey Azoulay, que le Premier ministre puisse missionner une députée, Marie-Odile Bouillet, qui va, pour nous, avoir la mission parlementaire d'aller regarder sur le terrain la réalité de cette éducation artistique et culturelle pour s'inspirer des meilleures pratiques et les donner à voir collectivement et faire en sorte que cela fasse des petits. Cette mission sera officialisée d'ici quelques jours. Nous avons aussi développé des partenariats nombreux à l'échelle nationale, notamment avec le Festival d'Avignon. Et je suis très heureuse de renouveler dans les minutes qui suivent la convention qui nous lie à ce festival et qui nous permettra de développer là encore de nouvelles actions éducatives. Et c'est pas mal que ce soit à Avignon qu'on signe sans doute la convention la plus exemplaire qui soit, parce qu'on voit bien, en arrivant ici, à travers les trois clés qui ornent les armes de cette ville, que ce qui se dessine pour nos élèves, finalement, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre et l'ouverture à soi-même. Eh bien, ce mot d'ouverture, je crois que c'est un mot absolument essentiel à retenir quand on parle d'éducation artistique et culturelle. Oui, si on veut toujours aller plus loin en la matière, il faut de l'ouverture entre nous, au niveau institutionnel. En juin 2015, c'est enfin, c'était inédit dans l'histoire, tenue la première réunion des DRAC et des recteurs. En décembre dernier, même chose, c'était une première, nous avons enfin réussi à organiser un plan national de formation à l'éducation artistique et culturelle où se mêlent et des acteurs de la culture et des enseignants chez nous. Et aujourd'hui, une convention va donc être signée pour qu'un septième jour d'ouverture de 3 musées nationaux, et pas n'importe lesquels, soit consacré aux scolaires. Et cette ouverture entre nos 2 ministères et nos 2 institutions va aussi se traduire par une mesure, je peux vous dire, à laquelle je tenais beaucoup et je suis très contente qu'elle aboutisse enfin. C'est en effet l'élargissement des passes éducation dont jusqu'à présent bénéficiaient les enseignants au sein de notre système scolaire et qui donnent, pour ceux qui l'ignorent, accès gratuitement aux collections permanentes de plus de 160 musées ou monuments nationaux. Donc l'élargissement de ces passes éducation à toutes les équipes éducatives, c'est-à-dire en effet aussi bien au personnel de direction qu'il ne l'avait pas jusqu'à présent, personnel administratif, personnel sociaux, santé, personnel d'éducation, soit 250 000 nouveaux bénéficiaires au sein de l'éducation nationale de cette possibilité d'aller gratuitement au musée. C'est une très bonne chose parce qu'en offrant à l'ensemble de nos équipes un accès régulier aux institutions culturelles, non seulement on contribue à faire de l'éducation artistique et culturelle une évidence, mais aussi une nécessité, et que chacun sa culture à cette idée. Alors l'ouverture est réciproque, puisque c'est aussi l'ouverture de l'éducation nationale à l'égard des arts et de la culture. Par exemple, avec la Fabrique à chansons, qui est une opération que nous menons en partenariat avec la SACEM, eh bien, nous ouvrons la porte des écoles à des artistes qui vont venir dans les classes écrire des chansons avec les élèves et les impliquer au cœur de la création. Et cette ouverture, chère Audrey, nous allons encore la renforcer dans les mois qui viennent. Donc, mesdames et messieurs, on peut dire que les textes, on les a, les progrès, on les constate, et c'est bien de saluer les avancées, il faut le faire, et en même temps, il faut aussi parfois reconnaître les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Parce que trop souvent, résonnent encore des interrogations, voire des reproches, dans les débats publics, ne nous le cachons pas, sur le mode, est-ce qu'il n'y a pas plus urgent à apprendre à l'école que l'éducation artistique et culturelle? Est-ce qu'il n'y a pas plus utile à apprendre? Et en fait, moi, je me rends compte que pendant longtemps, cette question-là, on l'a un peu éludée. En fait, on a refusé plus exactement cette injonction qui nous était faite de répondre à la question de l'utilité. C'est vrai que c'est une injonction et une question qui est dangereuse, réductrice. Mais en même temps, je crois qu'il faut y répondre. Parce que si nous ne le faisons pas, le risque est grand de voir l'éducation artistique et culturelle ne concerner que ceux qui sont convaincus. Or, c'est aussi les autres qui nous intéressent. Et moi, je refuse que des parents d'élèves continuent à avoir le sentiment qu'il faudrait choisir entre insertion professionnelle ou éducation artistique et culturelle. Je refuse de laisser croire à des enseignants que les fondamentaux et l'éducation artistique et culturelle sont incompatibles. Et c'est pour cela que j'aime particulièrement le troisième point de votre charte. Oui, l'éducation artistique et culturelle est aussi une éducation par l'art, et donc une éducation utile pour la réussite scolaire. Quand vous faites du théâtre, quand vous étudiez une œuvre, quand vous découvrez l'invention de la perspective ou quand vous rencontrez un créateur, eh bien, ce sont bien les fondamentaux que vous sollicitez et que vous exercez. Et quant à l'insertion professionnelle, si vous regardez les annonces et les offres d'emploi, qui ne voit pas qu'elles insistent quasiment toutes aujourd'hui sur la créativité, la maîtrise de la langue, la capacité à mener des projets en commun? Autant de compétences qui se cultivent tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce parcours, c'est d'ailleurs aussi la découverte de métiers. La jeune fille qui s'est exprimée tout à l'heure en a fait une formidable illustration, bien mieux que je ne saurais le faire, puisque finalement, grâce à son expérience, elle a décidé de se tourner vers le métier du journalisme. Eh bien, bien sûr, en amenant les élèves à découvrir ses œuvres, ses créateurs, c'est aussi la découverte de la création lumière, de la création sonore, de la médiation culturelle dans un musée, les ateliers de décor et de costumes, les métiers d'art. Et donc tout ça donne aussi des idées, de vocations professionnelles et des perspectives aux élèves qui élargissent leurs horizons. Quand vous voyez en réalité toutes les études et tous les travaux qui sont consacrés aux effets bénéfiques de la pratique artistique sur la réussite scolaire, bah en fait, vous comprenez qu'il n'y a pas à choisir, qu'il n'y a pas de dilemme cornélien ici. Pas du tout. Au contraire, c'est et l'éducation artistique et culturelle, et les fondamentaux, et l'éducation artistique et culturelle, et l'insertion professionnelle. Et donc, oui, il est logique de voir la Comédie française, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale travailler main dans la main ensemble. Et ce que nous travaillons à faire advenir ensemble, eh bien, c'est la démocratisation de l'éducation artistique et culturelle qui est plus qu'un désir, qui est un besoin, un besoin. Je rappelle souvent, quand j'ai l'occasion de voir des élèves, cette très belle formule de Saint-Exupéry qui disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. » Eh bien, c'est exactement cela qu'il faut retenir. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'éducation artistique et culturelle? Pour faire rêver les élèves, pour les faire aller plus loin, pour leur donner confiance en eux-mêmes et pour leur ouvrir les horizons. Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je me félicite de cette charte. Je me félicite vraiment du partenariat excellent que nous avons avec le ministère de la Culture. Et je me félicite des conventions que nous allons signer dans un instant. Merci beaucoup.
Alors, ces conventions, nous allons les signer sur ce pupitre. Et il me revient de projet d'appeler les différentes personnes concernées. La première convention, c'est celle du rectorat d'Aix-Marseille avec la DRAC PACA et le Festival d'Avignon. Donc, j'appelle ici pour la signature Bernard Beignet, mon cher ami recteur d'Aix-Marseille et recteur de région académique, cher Bernard, le préfet Bernard Gonzalez, Paul Rondin, et devront parafler la convention, les deux ministres. Donc, le maître de cérémonie vous invite maintenant, alors, Madame Najat Vallaud-Belkacem, Monsieur Paul Rondin, Monsieur Vincent Claveau pour la convention MESR. MNESR, Festival d'Avignon, MEN et Centre de Séjour. Convention numéro 3 avec M. Bernard Gonzalez, M. Bernard Beignet, moi-même et les deux ministres qui sont invités à paraffer. Je m'appelle moi-même. Signature numéro 4, Madame Najat Vallaud-Belkacem, Madame Audrey Azoulay et Monsieur Éric Ruff pour la Comédie française. Enfin, la dernière convention signée est celle qui a été évoquée tout à l'heure, celle entre le ministère de la Culture, de la Communication, le ministère de l'Éducation nationale et les musées nationaux Louvre, Orsay et Versailles. Et ce sont nos deux ministres qui signent. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier tous les signataires de cette convention, tous ceux qui ont pu permettre qu'elle se réalise. Je tiens vraiment à saluer Marc Secaldi. Vraiment, merci Monsieur le DRAC PACA, qui a été un formidable acteur dans l'élaboration de ces conventions. Vous dire aussi que je suis très heureux qu'on signe sur ce lieu, qui est une ancienne école normale d'institutrice, par laquelle est passé Monsieur Paul Puot. Paul Puot, qui était un des directeurs du Festival d'Avignon, mais celui qui a aussi insisté pour que, à côté du projet de Villars, s'installe ce projet d'éducation populaire ici au Festival d'Avignon, l'a installé ici et a été un des grands contributeurs parce que c'était d'abord tout et avant tout un enseignant qui a voulu effectivement que le Festival d'Avignon continue à exister avec tout ce que nous sommes en train de porter aujourd'hui à travers nos valeurs. Donc c'est important de vous le dire avant de vous quitter. Merci à vous tous. Photo collective avec tous les signataires.
Eh bien voilà, toutes ces chartes sont maintenant signées. Un grand pas en avant avec eh bien, tout ce qui est prévu au niveau du ministère de la Culture, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et tous les acteurs qui se sont enfin rencontrés et qui ont enfin mis des choses en place concrètes. Cela débute ici et maintenant en Avignon. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi sur Cap Radio et on continue de toute façon en musique avec vous.